Biologie naturelle pour le père Philippe à Saint-Joseph, le 16 avril 85.
Nous allons continuer ce cours de théologie naturelle, c'est-à-dire du jugement de sagesse. Hein, je vous l'ai rappelé ce matin, c'est l'aspect ultime et dernier de la philosophie. C'est d'une certaine manière l'aspect le plus important. C'est pour ça qu'on ne le voit jamais. Parce que c'est vrai, cherchez, vous ne verrez pas. Alors, ce qui est très important, c'est que par là, on assume tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans la position de l'ontologisme. Parce que, de fait, nous regardons l'homme dans la lumière même de Dieu, non pas en disant que nous définissons l'homme par Dieu, ce que fait les ontologistes, mais nous comprenons que la dernière intelligibilité que nous avons sur l'homme provient de cette lumière que nous avons sur Dieu. Alors, on ne peut pas dire intelligibilité, je dirais jugement d'existence. C'est ça qui est intéressant à voir. C'est que nous comprenons la manière d'exister de l'homme dans la lumière de la manière d'exister de Dieu. Et ceci, vous voyez, permet de toucher quelque chose de très concret dans notre vie. C'est pour ça que par là, nous rattrapons tout l'existentialisme. Nous essayons de comprendre cet état spécial de l'homme. Il est dans un état de contingence. Ce que nous avions vu la dernière fois. Il est dans un état de contingence. Dieu seul est immuable. Dieu seul est celui qui est dans une fixité absolue, pas en raison de sa perfection. Il ne peut pas y avoir d'évolution en Dieu. Alors que toutes les autres réalités, et donc l'homme, en dehors de Dieu, sont dans cet état de contingence. Ils ont en eux une mutabilité fondamentale essentielle. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a une espèce de contradiction dans la créature. Hein. Puisqu'il y a quelque chose de stable et il est dans un état de mutabilité. C'est ce qui explique le vertige que peut donner la créature. Le vertige métaphysique. Si on ne s'est pas élevé jusqu'à Dieu, mais c'est affolant de voir que tout passe. Vous voyez, une patte d'arrêt. Dans un jugement de sagesse, c'est très vrai. En dehors de Dieu, tout passe. Tout peut être anéanti. Tout peut disparaître. Et tout est suspendu à Dieu. Alors, nous allons maintenant continuer, parce que... entrer progressivement dans toute cette lumière. Si l'être premier, je crois que c'est le numéro 7, peu importe, hein, on essaie de comprendre successivement. Si l'être premier est totalement immuable, il est l'éternel, au-delà de toute succession du temps. Le temps provient de lui, et lui est avant le temps. Tandis que toute créature de notre univers, donc toute réalité de notre univers, qui est une créature, est essentiellement mesurée par le temps, parce que son être est dans le mouvement. Parce que son être est dans le mouvement. L'être est dans le devenir. Vous voyez comme c'est intéressant, parce qu'au fond, en parlant, on répond à Hegel. Et c'est ici, dans ce jugement de sagesse. Alors vous voyez bien, pour que vous compreniez successivement, nous sommes dans un jugement de sagesse. Donc, à partir de la manière d'exister de Dieu, Dieu existe dans une modalité absolument simple, dans un état de perfection, dans un état de volonté souveraine. Et Dieu est immuable. Attention, avant. Dieu est infini. C'est tellement important de bien voir ça. Ici, nous sommes en face des manières d'être de la transcendance de Dieu. On peut dire simplicité, perfection et bonté montrent les trois grandes modalités de transcendance de Dieu. Absolument simple, très parfait, et puis souverainement bon. Les trois grandes modalités de la transcendance. Et dans ces trois grandes modalités de la transcendance, je regarde l'homme, un être composé, et la composition radicalement, la radicale, l'essai et l'existence. Il y a une fêlure, hein, comme dirait Kierkegaard. Il y a une fêlure métaphysique. Nous sommes tous des êtres fêlés, parce qu'on est des êtres composés. Alors il y a une fêlure. Essayer d'exister et l'essence. Premier, nous sommes des êtres imparfaits. Nous sommes des êtres d'une bonté participée, c'est-à-dire que nous ne sommes pas bons dans notre substance. Mais vous approchez jamais trop. C'est ça que ça veut dire. Hein? Parce que fondamentalement en nous, il y a un égocentrisme fondamental. Alors, on est bon, je ne dis pas qu'on est bon périphérique, de façon périphérique. Ce n'est pas juste. On est bon dans son opération, dans son orientation vers le bien, vers la fin, mais on n'est pas fondamentalement bon. C'est terrible, ça. C'est une bonté qui n'est pas absolue. Et pourtant, nous avions vu que l'ami peut être d'une certaine manière un absolu. C'est quelque chose. Donc, bonté participe. Puis alors, à partir de ces trois, nous avons l'infini. L'infini de Dieu montre l'immanence. Dieu est sans limite. Sans limite, c'est-à-dire que justement, il ne s'oppose à personne. Il n'y a pas de borne en Dieu. Il est l'immensité de Dieu. Et par le fait même, la créature, elle, est terminée. Elle est limitée. Nous avons des frontières. L'homme, par définition, a des frontières. L'homme est sans, Dieu est sans frontières. Tandis que l'homme a des frontières, il a des limites. Et alors, l'infini implique l'immutabilité. Celui qui est infini ne peut pas bouger. C'est absolument impossible. Il ne peut pas bouger. Il est immobile dans son infini. Et il est éternel. Alors, l'immutabilité, donc la contingence. Et puis ici, le temps. L'éternité et le temps. Et je crois qu'il faut bien saisir alors, l'ordre qui est donné par là. Vous voyez, la transcendance, et là, à partir de là, on est dans l'immanence. C'est très curieux. Une immanence qui implique une transcendance. Hein. C'est évident, puisque l'infini repose sur la simplicité. L'immutabilité repose sur le point de vue de la perfection. Et l'éternité implique aussi, d'une certaine manière, la bonté. C'est parce que Dieu, il est tota simul, n'est-ce pas ? Le propre de l'éternité, c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Le propre de l'éternité, c'est qu'il ne peut pas y avoir de succession. Nous sommes obligés de sortir de nous pour atteindre notre bien. Tandis qu'au contraire, celui qui est éternel, il ne sort pas de lui. Donc, d'une certaine manière, l'éternité est la conséquence de l'immutabilité. Mais elle s'appuie aussi sur la bonté, la perfection et la simplicité. Donc, à l'intérieur de cette immanence, il y a une transcendance. Voilà la manière d'exister de l'être de Dieu. Alors, comprenons bien. Que représente d'abord l'éternité de Dieu? Qu'est-ce que c'est que l'éternité de Dieu? C'est que son exister, que sa vie, que sa durée est possédée dans un instant éternel. Tota simul. C'est l'expression que prend saint Thomas, qui est très difficile à traduire. Hein, le tota simul. Une simultanéité totale, plénière. Celui qui est éternel, c'est celui qui n'a pas besoin de développement. Il est entièrement lui-même dans cet instant éternel. Et saint Thomas dit toujours que c'est par le point de vue de l'instant que nous touchons l'éternité. Le passé, le futur n'ont rien à faire avec l'éternité. Parce que d'abord, il n'existe pas. Le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. La seule chose qui existe, c'est l'instant présent. Et c'est ça qui est très intéressant, du reste, parce que ça fait comprendre que toutes les conceptions du temps, aussi bien dans les sciences, sont des conceptions du temps par rapport à un ordre et pas par rapport au présent. Seul le philosophe parle du présent. Et le présent n'a de sens qu'en philosophie. Et c'est seul le présent qui fait toucher l'éternité. Mais c'est une manière de comprendre comment le développement des sciences ne peut rien nous dire de l'éternité. J'avais fait une fois à Fribourg un séminaire qui était très libre, qui était en dehors de l'université, mais qui était d'autant plus intéressant, et que nous avions fait un séminaire sur le temps et l'éternité. Alors, quelle est la conception du temps chez le physicien, l'astronome? C'est intéressant, la conception du temps chez l'astronome, parce que ce sont des chiffres extraordinaires, hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quand on calcule ces chiffres extraordinaires de distance? Qu'est-ce que ça veut dire dans le réel, hein, dans l'être existant? Imaginativement, on voit très bien comment on peut, mais dans l'être réel, la conception du temps chez le poète. Le poète a un temps romantique assez particulier, vous voyez? Le temps d'un clair de lune, c'est assez particulier. Et chez le poète, dans son inspiration profonde, le temps chez le vivant, et puis le temps au niveau proprement philosophique. Seul le présent peut rejoindre l'éternité. Vous ne rejoignez l'éternité que par l'instant présent. Et l'instant présent, il est insaisissable, puisque dès que vous le dites, il est passé. Alors vous courez après, et il est passé. Et vous n'existez vraiment que dans l'instant présent. C'est extraordinaire, ceci. Il n'y a pas trop y réfléchir, on y perdrait la tête. Parce que le passé, il n'existe plus. Il a existé, le futur. Alors, votre existence, elle est dans l'instant présent. Et tout de suite, ce n'est plus l'instant présent. C'est le passé. Dès que vous le dites, c'est déjà passé. Et vous n'existez que dans l'instant présent. Et c'est par l'instant présent que vous rejoignez l'éternité. C'est pour ça que saint Thomas dit que si on veut se représenter l'éternité, si on veut se représenter l'éternité, c'est pas une conception métaphysique, mais c'est une manière de se représenter l'éternité. Il faut penser à un instant substantiel. Un instant substantiel. Un instant qui n'est qu'instant. un instant qui n'a pas de passé, qui n'a pas de futur. Dieu n'a pas de passé. Dis donc, Dieu a une jeunesse instantanée. Nous avons un passé. Nous avons des rides. Pas de rides en Dieu. L'instant. Pas de futur. Non, ça n'existe pas. L'éternité, c'est l'actualité, si vous voulez, plénière. Il n'y a pas de succession. La succession est liée à un devenir. L'être, il est. C'est le devenir qui implique un passé et un futur. L'être, il est. Et quand il est d'une façon nécessaire, il est éternel. La nécessité dans l'être va impliquer immédiatement l'éternité. Au-delà du passé et du futur, au-delà de tout développement, au-delà de toute succession, il est. C'est une des choses les plus étonnantes. Hein, on peut penser l'éternité négativement. Vous saisissez le temps, vous dites, l'éternité, l'éternel, c'est celui qui est au-delà du temps, en qui le temps n'a aucune prise. Donc, aucune succession de choses qui viennent s'ajouter, aucune succession de choses qui viennent se retrancher. Nous, nous sommes des êtres dans le temps. Et parce que nous sommes des êtres dans le temps, nous sommes des êtres mesurés par le temps. En ce sens que il y a un passé et un futur. Alors, dans cette vision d'éternité, qui repose sur la simplicité et l'infini, c'est parce que Dieu est infini qu'il est immuable, parce qu'il est immuable, pas de mouvement, donc éternel, sans aucune succession. Et se possédant d'une manière plénière dans cet instant d'éternité, dans cet instant substantiel. Dieu voit tout à travers son éternité. Donc la succession du temps est vue à travers l'éternité. Vous voyez la question qui se pose, est-ce que dans son éternité, Dieu assiste toujours au commencement du monde? Il n'y a pas de commencement pour l'éternité. Le commencement, il est dans le temps. Et l'éternité contient toute la succession du temps. Elle reste qu'une vision d'éternité. Quand nous verrons Dieu, et nous verrons Dieu dans la vision d'éternité, elle reste qu'à ce moment, nous assisterons au commencement de la création. C'est très très curieux ça. Quand vous essayez de saisir, Dieu voit tout dans son éternité. Il voit tout dans son éternité. Donc toute la succession du temps est saisie dans l'éternité, est présente dans l'éternité. Il n'y a pas de succession dans l'éternité. Donc la succession du temps est autre chose. C'est deux registres tout à fait différents. L'éternité est source du temps. Et toute la succession du temps, tout le développement du temps est présent dans l'éternité, est présent dans cet instant éternel. Donc, le point de départ du temps, le temps, il a commencé quand? Le temps, il a commencé au moment où Dieu a créé notre univers. Le temps n'a existé que lorsque l'homme est arrivé. Avant, il y avait un temps pour, par rapport à la création, créature temporelle, l'univers. Il a été créé dans le temps. Et le temps apparaît à ce moment-là. Et l'éternité contient ce temps. Puis moi, je suis ici. Je ne sais pas ce qu'il y aura encore après. Je n'en sais rien. On est ici. Mais on est vu dans l'éternité. Et l'éternité possède toute cette succession du temps. L'éternité n'est pas modifiée par le temps. Le temps ne modifie pas l'éternité. Le temps existe à partir de l'éternité, mais l'éternité n'est pas modifiée par le temps. Et donc le regard de Dieu, qui est un regard éternel, qui est un regard à l'intérieur même de cet instant substantiel, toute la succession du temps est présente. Tout est présent dans le regard de l'éternel, dans l'éternité de Dieu. On ne peut pas le concevoir positivement, parce qu'alors vous auriez un regard d'éternité. Vous ne pouvez le concevoir que négativement, par rapport, vous, à votre manière de regarder. Vous avez un regard, vous, un regard historique. L'année dernière, demain. Ah, voilà ce qui s'est passé il y a 3 ans. Puis vous reconstruisez, à peu près. Voilà ce qui va se passer dans 10 ans. Nous sommes dans le temps. Et c'est ça l'histoire. On est dans le temps. Et parce qu'on est dans le temps, on est un être historique. Si on n'était pas dans le temps, on ne serait pas un être historique. Le fondement de l'histoire, c'est nécessairement le temps et la succession des choses qui sont passées. Dieu n'est pas un être historique. Dieu n'est pas quelqu'un qui est dans le temps. Il est au-delà. Et quand je dis au-delà, je ne veux pas dire, vous voyez, qu'il s'oppose au temps, puisque le temps provient de lui, l'histoire provient de lui. Et vous voyez bien comment tout développement historique ne peut rien nous dire de Dieu. Seul l'être qui est au-delà du devenir et au-delà de l'histoire peut nous dire quelque chose de l'éternité. Or, Dieu est l'éternel. Donc, tant que vous restez lié au devenir, vous restez lié au temps. Et tant que vous restez lié au temps et au devenir, vous ne pouvez rien dire de l'éternel. Vous ne pouvez rien dire de Dieu. Ça pose un très gros problème pour la théologie de l'histoire, vous voyez ? Et pour la philosophie de l'histoire. Parce que enfin, c'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder ce que c'est que l'éternité, qu'est-ce que c'est que le temps. Et puis regarder alors l'homme qui apparaît. Et à partir de l'homme, l'histoire. Avant l'homme, il y a une préhistoire. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire. Ça, c'est merveilleux. Il y a une succession dans le temps. Il n'y a pas d'histoire. L'histoire commence à partir de là. Et l'éternité fonde cette préhistoire et l'éternité assume l'histoire et le développement de l'homme. Alors, ajoutons encore pour être de plus en plus, pour entrer de plus en plus avec l'homme, l'histoire apparaît. Avec l'homme, la durée apparaît. Que Bergson avait très bien saisi. Et avec l'homme, le temps continue. Il y a le temps, la durée, l'histoire. Pour très bien distinguer ces différents niveaux. Il faut les distinguer, ces différents niveaux. Le temps regarde directement le devenir. C'est la mesure de ce qui est mu. Tout ce qui est mu, du fait même qu'il est mu, et dans le temps. Et le temps est le reflet de l'éternité. C'est un reflet, un vestige de l'éternité. Donc c'est quelque chose qui manifeste, proclame l'éternité. Dans une vision de sagesse, hein, comprenons bien. Parce que dans une vision qui n'est pas une vision de sagesse, j'étudie ce que c'est que le temps pour lui-même à partir du devenir et à partir plus exactement de ce qui est mu. Le temps mesure ce qui est mu. Ce vivant, cet être qui est dans le temps, qui implique un devenir, c'est un vivant. Le vivant comme tel a une durée. Voyez, ce que ce matin je vous disais à propos de l'âme et du corps, le point de vue de l'intériorité et de l'extériorité. Le temps nous réfère toujours à une mesure extrinsèque. La durée est intérieure. Les cours ont tous la même durée, ont tous le même temps, mais n'ont pas tous la même durée. Ça c'est sûr. Quand vous n'y comprenez rien, ça dure très longtemps. Comme les nuits où vous ne dormez pas. Quand vous dormez ou que vous comprenez parfaitement un cours, ça va très vite. Je viens de me coucher, ça sonne déjà. La durée est intérieure. La durée regarde le vivant. Tandis que le temps regarde le corps. C'est parce que je suis partie de l'univers que je suis dans le temps. Tandis qu'au fond, la durée, ça regarde mon âme. Et mon âme a une durée particulière, suivant que j'ai conscience de réaliser telle ou telle opération. C'est pour ça que quand vous avez conscience de suivre un cours, vous savez ce que c'est que la durée. Et vous savez que ce cours a exactement le même temps qu'un autre cours, mais certains cours ça passe très vite et d'autres cours c'est très lent. Oui. C'est la même chose pour les prédications. Il y en a qui durent très longtemps, et d'un il y en a qui c'est... Et c'est toujours le même temps. C'est très curieux ça. La différence entre le temps et la durée intérieure. Et cette durée intérieure, lorsqu'il s'agit de l'homme, parce que l'animal a-t-il une durée ? Il a une durée, mais il n'a pas conscience de cette durée. Tandis que l'homme a conscience de cette durée. Et cette durée va permettre à l'homme d'être dans l'histoire. L'histoire, c'est relatif à une communauté. On serait seul, il n'y aurait pas d'histoire, il y aurait une durée. Dès qu'il y a une communauté, il y a une culture et il y a l'histoire. Vous voyez ? Alors il y a un tissu différent de durée et de temps. C'est très curieux que l'histoire est en référence au temps et en référence avec la durée. C'est un petit peu la synthèse des deux. Puisque vous parlez de l'histoire à telle époque, et vous parlez de l'histoire en ce sens que dans la mesure où vous avez vous-même opéré quelque chose, vous avez fait une œuvre d'art, vous avez réalisé quelque chose, des rencontres historiques, des luttes historiques, des guerres historiques. C'est un moment historique. C'est le point de vue du temps et de la durée. L'histoire ne peut pas s'abstraire du temps et ne peut pas s'abstraire de la durée. Donc implique les deux. C'est pour ça que je mets en troisième position. Oui. Et tout cela doit être vu dans un regard d'éternité. Alors, l'éternité, vous voyez, va en quelque sorte être fragmentée dans le temps, dans la durée et dans l'histoire. Je crois qu'on pourrait dire que le temps, c'est un vestige d'éternité et que la durée de l'homme est une image de l'éternité. Une immanence beaucoup plus grande. Et que l'histoire, c'est comme une incarnation de l'éternité. C'est quelque chose qui manifeste, qui a quelque chose qui continue, qui dure la durée, et qui se manifeste différemment selon les époques. Alors, Dieu est éternel. L'homme est essentiellement dans le temps, il a une durée, il a une histoire. Par là, on essaie d'exprimer cette dépendance très particulière de l'homme par rapport à son corps. À cause du corps, il est un être en devenir et qui a besoin de se développer depuis le premier moment de sa conception jusqu'à sa mort. Il y a tout un développement qui se fait dans le temps. Il a une durée par son âme, par son âme spirituelle, et il a une histoire. Et les trois aspects par lesquels nous nous inscrivons dans le temps et que nous sommes sous la lumière de l'éternité. Alors, si l'éternité, c'est tota simul, c'est quelque chose comme l'éclair. C'est pour ça qu'on prend l'exemple de l'éclair, in instanti, dans un instant, un instant qui dure, un instant qui est, un instant qui ne change pas, un instant substantiel. C'est ça l'éternité, un instant substantiel. Nous, parce que nous sommes des êtres dans le temps, nous sommes des êtres successifs, présent, passé, futur. Parce que nous sommes des êtres créés, nous avons une durée, parce que nous sommes des vivants spirituels, une durée intérieure qui n'est pas la même que celle du temps. Et parce que nous sommes des êtres vivants conscients d'être vivants, avoir cette immanence, quelque chose qui ne change pas, quelque chose qui dure, et en même temps les changements qui se font et les relations mutuelles avec les autres, nous sommes un être dans le point de vue de l'histoire. Nous avons à nous inscrire dedans. Par là, nous comprenons que l'être humain à une existence non possédée. Il n'y a que l'éternité qui est possédée et qui fait posséder l'existence. Tota simul. Tout est donné en même temps. Et rien ne peut être retiré. Dieu est éternel, acte pur. Tout lui est donné entièrement dès le premier instant. Pour nous, au contraire, nous sommes des êtres qui ne possédons pas notre existence. Il nous est donné successivement. Je ne possède pas le futur. Il peut être retiré et je n'ai aucun droit. Et ma durée intérieure, oui. J'aurai un certain droit à ma durée intérieure, c'est mon âme. Mais cette durée intérieure dépend du temps, elle se réalise dans le temps. Je ne peux pas couper en disant « je suis un être vivant, je ne veux pas vivre dans le temps, pas du tout ». Ma durée est liée au temps. Et donc si elle est liée au temps, elle est donc non possédée comme le temps. Le temps est un morcellement qui arrête le point de vue de la possession. C'est de la quantité discontinue, le temps. Et parce que c'est de la quantité discontinue, c'est quelque chose de non possédé. C'est ce que les modernes, voyez, essaient de comprendre par le point de vue de la temporalité. Regardez dans Merleau-Ponty, la temporalité. Qu'est-ce que c'est que la temporalité? La temporalité, c'est justement cette espèce d'état de pauvreté dans lequel se trouve l'être humain, qui fait qu'il est toujours dans la succession. Ce qui est actuel ne dure pas. ce qui est actuel passe aussi vite que l'instant présent. C'est très fatigant d'être un être temporel. Puisque d'une certaine manière, c'est uniquement une succession sans aucune possibilité d'avoir ce morcellement terrible du temps. Ce qui faisait comprendre comment les Grecs disaient que le temps use et fatigue. À cause de ce morcellement, le temps fait vieillir. Alors, le temps aussi permet les renouveaux. Ça, c'est sûr. Il y a une possibilité de renouveau. Parce qu'il y a une possibilité de mourir et de repartir. Il y a quelque chose de très particulier, voyez, dans cette question, ce phénomène du temps que nous vivons à travers la conscience que nous avons de notre durée et dans la lumière de l'éternité. Nous comprenons cette fragilité, cette précarité d'un être temporel, être dans la temporalité. Cette temporalité fait appel à la notion de l'histoire, fait appel aussi à tout un contexte. On est dépendant des autres, de leur manière d'être. Nous ne sommes pas seuls dans le temps. Et nous dépendons d'eux pour pouvoir établir quelque chose dans lequel l'être peut s'épanouir. L'éternité est au contraire unique. Il n'y a qu'un seul être éternel. Tandis que la temporalité, le temps, est nécessairement multiple. C'est pour ça qu'il est fatigant. Tandis qu'au contraire, l'éternité est quelque chose d'unique. Comprenons que dans l'homme, il y a possibilité, par sa vie intellectuelle, spirituelle, de comprendre cette durée de plus en plus intérieure, de plus en plus proche de l'éternité, mais qui n'est pas l'éternité. Dieu seul est éternel. La créature comme telle, même quand elle est spirituelle, n'est pas l'éternité. Elle a conscience de sa durée. Alors les théologiens appelleront ça l'évoum. C'est un mot très curieux, c'est un mot grec, hein, qui veut dire quelque chose qui est au-delà de la corruptibilité. L'évoum, c'est tout proche de évoum, aïn, toujours. L'évoum qui veut dire justement quelque chose qui est très proche de l'éternité, très proche de l'éternel. Il est au-delà de la corruptibilité. Alors, ceci, c'est propre à la vie spirituelle. Par la vie spirituelle de l'intelligence et du cœur, vous n'êtes plus prisonnier du temps. Vous pouvez échapper au temps. Dans une durée de plus en plus intérieure et de plus en plus forte, mais vous restez quand même toujours lié au temps par le corps. Et votre réalisme consiste à regarder ce lien avec le corps, mais en même temps de regarder qu'il y a dans l'esprit quelque chose qui est au-delà du temps. L'esprit ne peut pas être mesuré par le temps. Quand je vous dis l'esprit, l'intelligence et la volonté. L'intelligence et la volonté ne peuvent pas être mesurées par le temps. Ils ont quelque chose en eux d'éternel. Alors c'est ce quelque chose d'éternel qui existe dans l'intelligence et la volonté que nous avons déjà vu, quand nous avons vu que dans l'intelligence et la volonté, il y a quelque chose d'infini. Je peux progresser indéfiniment dans mon intelligence, je peux progresser indéfiniment dans ma capacité d'aimer. Et ce progrès indéfini dans l'ordre de l'intelligence et indéfini dans l'ordre du temps peut être parfaitement capté par mon esprit par mon intelligence, par ma volonté. Et je comprends à ce moment-là qu'il y a en moi comme un appel vers l'éternité, comme une attente vers l'éternité, comme une nostalgie d'éternité. C'est par l'esprit qu'il y a cette nostalgie d'éternité. Ce n'est pas l'éternité, mais c'est une nostalgie d'éternité. C'est la marque sur moi que je viens de l'éternité et que je suis fait pour l'éternité. L'esprit est fait, il peut comprendre, il peut saisir qu'il provient de l'éternité et qu'il est fait pour l'éternité et qu'il est au-delà de toute la succession, d'où la nostalgie de l'éternité. Je crois que c'est très important à comprendre cela, qu'il y a en nous, par le point de vue de l'intelligence et de la volonté, non pas quelque chose d'éternel, mais une possibilité de rejoindre l'éternité. Non pas de la concevoir, vous n'avez pas de concept de l'éternité. Mais vous dites que ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Parce que justement, c'est ce qui n'implique aucune potentialité, aucune limite, et qui implique cette possession plénière et totale de sa propre existence. Il serait intéressant de retrouver ici certaines nostalgies des anciens à propos de la procréation et à propos de la réminiscence. À propos de la création, à propos de la procréation, Platon et Aristote soulignent que par la procréation, l'homme dépasse la contingence et rejoint d'une certaine manière quelque chose d'éternel. Il rejoint quelque chose d'éternel parce que par la procréation, il est victorieux de la contingence de la corruptibilité. Non pas comme individu, mais comme espèce. L'individu peut disparaître, l'espèce continue. C'est pas très drôle comme individu de constater ça, mais philosophiquement, je peux me placer au-delà de l'individu et comprendre que l'espèce dure. Et cette espèce dure parce que justement elle provient d'éternité. Et alors elle a comme cette nostalgie profonde de l'éternité. Comment pour moi rejoindre l'éternité? Il y a deux aspects, deux manières pour moi de rejoindre l'éternité. Je la rejoins par la procréation et je la rejoins par la contemplation. C'est les deux manières par lesquelles je touche l'éternité et qu'il y a en moi quelque chose d'éternel par laquelle je peux prendre conscience de cette nostalgie d'éternité. Par la procréation, je dépasse le point de vue de l'individu dans sa contingence. Il est mortel. Parce qu'il est contingent, il est mortel. Eh bien, je suis victorieux de ce caractère contingent et mortel par le point de vue de la procréation. Un autre être apparaît. Ah, vous voyez, c'est là où on voit que la vie dépasse le point de vue de la temporalité. La vie demande ce dépassement. La temporalité use, la vie reprend toujours une victoire sur cette usure. Parce qu'il y a en elle quelque chose de beaucoup plus proche de l'éternité. Il y a en elle un appel d'éternité qui est vu dans la procréation. Il y a en elle un appel d'éternité qui est vu dans le point de vue de l'intelligence et de la volonté, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette soif de contemplation. Et cette soif de contemplation montre bien comment l'esprit est au-delà de la succession temporelle et de la corruptibilité des choses. Je crois que par là, nous voyons bien cet appétit naturel de dépasser la corruptibilité. Il y a dans l'être humain quelque chose de farouche contre la temporalité. C'est là aussi nous pourrions comprendre, voyez, ce que Malraux disait, l'œuvre d'art est anti-destin. Parce que par l'œuvre d'art, il y a quelque chose d'éternel, la forme, l'eidos, l'idée. C'est quelque chose d'éternel. C'est quelque chose d'éternel dans le sens que c'est quelque chose qui est au-delà du temps, au-delà de la corruptibilité du temps. Alors, nous comprenons que il y a au plus intime de nous-mêmes, par l'intelligence et la volonté, il y a un appel vers ce dépassement. Et vous retrouvez dans l'immanence la transcendance. Et cet appel vers quelque chose qui ne peut pas passer. Et ceci se retrouve dans les esprits les plus révolutionnaires qui soient. C'est très curieux. Cette espèce de désir, quelque chose qui ne doit pas passer. L'aspect révolutionnaire et anarchique veut toujours bouger et changer, mais c'est l'absolu dans le changement. Eh bien, de fait, on voit chez les plus grands révolutionnaires et les plus grands anarchistes ce besoin d'un dépassement dans la stabilité. Je crois que c'est la marque de l'éternité au plus intime de nous.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie.